Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce et la paix de notre Dieu Tout-Puissant soient sur nous. Nos sœurs, ils viennent de chanter, hein, Majesté, à toi seul la majesté. C'est Jésus. C'est Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce matin, je vais vous parler de comment avoir une vie sainte. C'est un gros problème pour nous. Et nous allons le voir dans l'Ancien Testament. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 20. Le verset 26. Voilà ce qu'il nous est dit. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez à moi. Voilà. Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel. Et ce verset-là, il nous le dit clairement, hein. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez mon peuple, afin que vous soyez à moi. Quelqu'un dira, mais ça, c'est rapport à Israël. Non, c'est justement par rapport à nous. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vous ai séparés des peuples. Et ça, c'est Israël. Jésus-Christ, il est venu, Dieu a envoyé son Fils. Il est venu, mais les siens ne l'ont point reçu. Donc Israël, il a été mis de côté. Pas enlevé, mais de côté. Et Dieu, il s'est choisi des gens de toutes les nations où la parole a été prêchée, où des gens ils se sont tournés vers Jésus-Christ. Et l'Église, elle est venue au monde, et c'est l'Église qui est le peuple de Dieu aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien avoir ancré dans notre tête. L'Ancien Testament, c'est Israël. Israël n'a pas voulu. Israël n'est plus le peuple de Dieu. Il a été mis de côté. Qui c'est aujourd'hui le peuple de Dieu? C'est ceux qui ont Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et c'est l'Église. Une fois que l'Église elle sera enlevée, c'est alors que le peuple d'Israël lui reprendra sa place. Le peuple d'Israël aujourd'hui, ce n'est pas le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël il vit selon la loi. Et celui qui vit selon la loi est-il peuple de Dieu? Non. Le peuple de Dieu, c'est nous qui croyons en Jésus-Christ. Mais Israël, il a son importance. Hein? En 1948, il y a eu la naissance de la nation d'Israël. Et c'est là qu'a commencé l'horloge de Dieu qui s'est mis en route. Pourquoi? On vient de le chanter à propos de majesté. Hein? Son règne vienne. Pour que les rois puissent venir, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un royaume, d'un territoire. Et ce territoire, c'est Israël. Et il a besoin d'un peuple. Voilà pourquoi l'Église est enlevée et Dieu il va s'occuper d'Israël. Voilà, il dit, je vous ai séparé de peuple. Et c'est ça la signification du mot église. Ecclésia. C'est mis de côté. Séparé du monde. Retiré du monde. Le Seigneur, il nous dit, vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde afin que vous portiez mon nom. et vous êtes à moi, afin que vous soyez à moi. Et nous appartenons à Dieu par et à travers Jésus-Christ. Mais en tant que peuple de Dieu, en tant qu'appartenant à Dieu, nous devons mener une vie sainte. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Si Dieu est saint, le peuple, il peut ne pas être saint. C'est incohérent. Voilà pourquoi il dit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Jésus, il le répète dans Luc 11, soyez saints, car votre Père est saint. Alors, la difficulté, ce n'est pas une difficulté, mais on peut se demander, mais comment être saint au milieu de cette société dans laquelle on vit? Mais Dieu, il nous dit comment être saint. Je vous le dis toujours, vous voulez connaître une réponse, lisez la parole de Dieu. Dieu, il nous répond. S'il ne nous répond pas, c'est que cette chose, nous n'en avons pas besoin. Mais les choses dont nous avons besoin, il nous le révèle. Parce que Dieu, il révèle toujours ses secrets à ses serviteurs. Et ces secrets, ils sont tous dans la parole. Cherchez-moi et je vous révélerai des grandes choses. Alors, comment mener une vie sainte? Comment être saint parmi ce monde qui ne l'est pas? Le frère, il a parlé de la bonne semence, de l'ivraie, n'est-ce pas? Eh bien, voilà. Il y a quelque chose qui veut nous empêcher de vivre cette vie. Mais comment le savoir, comment faire? Nous allons voir ce que Dieu nous révèle, et tout cela toujours dans Lévitique, chapitre 19. Voilà les caractéristiques d'une vie sainte. Vous voulez vivre une vie sainte. Vous voulez vivre auprès du Seigneur, séparé de ce monde dans lequel personne ne désire vivre comme Dieu il veut. Mais nous qui avons été choisis, qui avons accepté Jésus-Christ, nous devons. Pourquoi? Parce que notre Père est saint. Le chapitre 19, voilà, c'est l'Éternel qui parle à Moïse, mais encore une fois, il nous parle. Parce que c'est nous le peuple de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Il répète, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Il nous le répète, et il le répète dans différents endroits, parce que c'est très important que le peuple de Dieu soit saint. Car les gens, comme je dis ce matin, ils ont les yeux pointés sur nous. Ils nous écoutent, ils nous voient, ils nous jugent. Voilà pourquoi notre comportement, il doit être différent de comme le monde, il se comporte. Une des caractéristiques, un homme saint, homme ou femme saint, hein? Voilà au verset 2. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Pour être saint, il faut respecter ses parents, papa et maman. Et cela n'est pas seulement tourné envers les jeunes. Papa et maman, voilà, je le respecte, quoiqu'aujourd'hui il n'y a plus de respect. Mais aussi les gens qui sont plus âgés. Respecter ses parents. Et c'est le seul d'un commandement dans lequel il y a une bénédiction dans la loi morale que Dieu il a donnée. Pour être heureux, il faut respecter nos parents. Et encore une fois, tout ça, ça commence à la maison. C'est à la maison que commence le respect. Nos parents, ils nous ont mis au monde. Ils nous ont instruits. Et nous devons les respecter. Obéir, les écouter, pas les critiquer, pas les laisser tomber, Voilà, c'est là qu'il commence une vie sainte. Car si on ne vit pas saintement à l'intérieur de notre maison, comment voulez-vous l'être à l'extérieur? Et la première manière, c'est de respecter nos parents. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'écoutent plus leurs parents. Tout leur est acquis. Et si les parents, ils ne peuvent pas leur donner ce que, selon eux, ils ont besoin, ils arrivent même à les appeler en justice. Il n'y a plus aucun respect. Ce que j'admire beaucoup dans la religion musulmane, c'est que les musulmans, ils ont leurs parents, c'est comme toucher eux-mêmes. Et ça, ils peuvent être vieux, ils peuvent être des jeunes. Ah, papa et maman, c'est le respect. Lorsque papa ou maman dit quelque chose, je me tais. Mais ça, c'est encore dans l'ancien temps. Je m'en souviens, mon père. Mon père, lorsqu'on parlait avec des hommes et ses fils, quoi. Des fois, vous savez, on utilise des mots un peu. Maman, elle était en cuisine. Et alors, lorsqu'on entendait la porte qui s'ouvrait, chut, le respect. Aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces choses-là. Et même lorsqu'on est plus âgé, je connais les chrétiens qui, pour avoir un peu plus de liberté, ils ont mis leurs parents dans des maisons de repos. Et pourtant, ils pouvaient les garder à la maison. Vous savez, j'ai ma belle-mère dans cette maison de repos, je vous assure que je n'y vais pas souvent, mais justement pour ça. Parce qu'on voit toutes ces vieilles personnes qui sont là, abandonnées. Et ma femme me dit qu'il y a des gens qui parlent avec elle et disent, mais vous n'avez pas de famille? Oui, oui, mais ne viennent pas me voir. Le respect des parents. Il nous a dit, oh non, chacun de vous respectera sa mère et son père. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est un commandement de Dieu. Une deuxième caractéristique, on le voit au verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici, il est clair, une vie sainte, aucun rapport avec les idoles. Vous me direz, mais aujourd'hui, les idoles, il n'y a plus de statues à la maison et tout ça. Idole, un idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Vous êtes dans le monde, il y a un cinéma à voir et dans d'autres endroits, vous devez aller évangéliser ou témoigner. Ben, voilà, vous allez au cinéma avec les copines et les copains. Il prend la place de Dieu. La télé, des fois, il prend la place de Dieu. On fait plus attention à ce qu'on dit à la télé qu'à ce que Dieu dit dans sa parole. Faisons attention à qui et vers qui nous regardons. Cherchez d'abord, il nous a dit, hein, le Seigneur Jésus, il nous dit ça. Cherchez d'abord. Où est-ce que nous mettons nos affections? En Dieu ou dans les choses du monde? Les idoles, ils sont à proscrire. Et Paul, il nous dit en Corinthiens 10, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. C'est ça que il y a beaucoup d'idoles dans notre propre vie. Notre travail, notre maison, nos richesses et tant d'autres choses. Mais Dieu, il dit, c'est moi ton Dieu, c'est toi mon peuple. Il faut que je sois à la première place. C'est ça l'idolâtrie, il faut la laisser de côté. Et quand je pense qu'il y a des gens qui se prosternent devant les images, Et pourtant, dans la loi morale, Dieu est clair. Hein? Ne vous faites pas d'image taillée. Ne vous prosternez pas. Voilà toutes ces choses-là. Si nous mettons en pratique ces choses, notre vie, il sera sainte. Nous aurons que des yeux et des pensées qu'est pour le Seigneur. Voilà une autre caractéristique. Au verset 5. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. En sorte qu'il soit agréé. Offrir volontairement des sacrifices, ce n'est pas des sacrifices d'animaux, mais c'est des actions de grâce envers Dieu. S'il nous arrive quelque chose de pénible, de ne pas être là en train de crier, de se plaindre, voilà, c'est dire, ben voilà Seigneur, j'ai ça et je l'accepte. C'est l'opprobre, je prends cet opprobre pour toi Seigneur. Je l'offre en sacrifice. Je le subis en silence. Pourquoi nous devons faire ça? Parce que Jésus, il a vécu ça. Il a été mené à la bûcherie muet, comme un agneau muet. Et pourtant, il aurait pu parler. Il aurait pu se défendre. Le sacrificateur, il m'a dit, mais es-tu le Messie? Et il ne répond pas. Je t'en supplie au nom du Dieu vivant. Là il a été obligé de répondre parce qu'il a été exhorté dans le nom du Dieu vivant. Et il a dit, oui, je le suis. Voilà, vous l'avez entendu? Il mérite la mort. C'est ça. Et le frère, il a parlé de la tribulation. La tribulation, c'est ça. J'en ai parlé ce matin aussi. À la tribulation, c'est tous ces sacrifices-là que nous avons faits à l'honneur de notre Dieu qui seront récompensés. Et c'est ça, mener une vie sainte. S'occuper des choses qui concernent Dieu et pas regarder les prix. Eh oui, mais si je fais ça, je vais perdre des choses, je vais souffrir et tout ça. Pensons à ce que notre Seigneur et Sauveur, il a souffert. On l'a vu ce matin, il est notre modèle. Nous devons regarder vers Jésus et se demander comme lui, qu'est-ce qu'il ferait Jésus à ma place dans cette situation? Jésus, il acceptait. On lui a craché. On lui a mis une couronne d'épines, on l'a fouetté, on l'a cloué et il n'a rien dit. La dernière parole qu'il a dit, c'est « Père, pardonne-leur ». Voilà, il a tout accepté. Et c'est ces choses-là qui sont agréables à Dieu, parce qu'il nous le dit, hein, afin qu'il soit agréable. Si on fait des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, ils ne sont pas agréables à Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque nous mettons notre propre moi, Dieu ne l'agrée pas. Car tout doit être fait pour une seule et unique chose, pour que Dieu puisse être glorifié. Voilà encore une bonne caractéristique. Il y en a encore un autre, versets 9 et 10. Voilà. Il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus des grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas le grain qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Seigneur, là aussi, hein, c'est souvenir du pauvre. Imaginez-vous, à cette époque-là, Dieu, il avait donné cet ordre-là, justement, parce que autour de, dans le peuple, il y avait des besogneux. Et alors, c'est lorsqu'ils en disaient, par exemple, pour le raisin ou pour autre chose, ils disaient, laissez des grappes de raisin, ou ne ramassez pas tout, vous le laissez pour que les pauvres puissent venir et puissent prendre et manger ces choses-là. Mais ça, c'est Dieu parce qu'il a la pensée. Je m'en souviens, mon père, il avait des vignes. Lorsqu'on allait aux vendanges, hein, il passait toujours derrière nous. Si des fois on avait oublié un tout petit raisin, mais Dieu, il pense à ses enfants. Il vient aux besogneux. Et alors il dit, laissez des choses derrière vous pour que le pauvre et ceux qui sont dans les besoins, ils puissent avoir de quoi manger. Et aujourd'hui, hein, on voit dans ce monde où il y a beaucoup de gens qui ont faim. Ici, pareil, dans l'église, je l'ai déjà dit, on a, depuis quelque temps, on a une banque alimentaire. Et je voulais dire et dire et dire et dire, lorsque vous allez au supermarché, prenez quelque chose pour ces gens qui sont dans les besoins. Et on va les distribuer. Sachez que ce n'est pas seulement ceux de l'église qui en profitent. C'est même ceux du dehors. Lorsqu'il y en a pas mal, je prends et je les ramène au secours populaire ou sinon ailleurs pour que les gens ils en profitent. Mais ce n'est pas seulement entendre ces choses-là, il faut les mettre en pratique. On est combien ici? 60, 70, 80, 100. C'est toujours la même personne qui amène. Hein? Et pourtant, ne me dites pas que vous n'allez pas acheter de... que vous n'allez pas au supermarché. Il faut penser aux pauvres. Les moyens que nous avons, chacun de nous, il y en a qui ont beaucoup de moyens, il y en a qui en ont peu. Le Seigneur, il nous dit que c'est des richesses injustes. Nous ne méritons rien. Mais si le Seigneur, il nous donne les moyens... Nous devons mettre à la disposition de ceux qui n'en ont pas nos possibilités. Voilà pourquoi la Bible l'appelle ça les richesses injustes. Parce que nous ne méritons pas. Mais le Seigneur, il nous les donne pour que nous puissions venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Et ça, c'est aussi une vie sainte. Car c'est rendre gloire à Dieu des choses qu'il nous a données. Voilà pourquoi il faut intervenir. Il y a tellement de choses. Et c'est Dieu qui nous dit ça. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, il y a les restos du cœur. C'est un certain Coluche qui l'a mis en route. Ce n'est pas un chrétien. Hein? Ce n'est pas un chrétien. Au contraire, Coluche, il était athée. Hein? Il ne croyait pas en Dieu. Donc imaginez-vous quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un auquel Dieu il a donné ce commandement, occupe-toi du pauvre. Et nous ne le faisons pas. C'est comme ça que notre vie il sera sainte. Pourquoi avoir une vie sainte? Car Dieu, il nous le demande. Je suis saint, soyez saints. Nous ne le serons jamais autant que Dieu l'est. Mais il nous le demande quand même. Une autre caractéristique, au verset 11, regardez. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni des mensonges, ni des tromperies les uns vers les autres. Ici, c'est agir avec loyauté. Les uns envers les autres. Pas de tromperie. Pas de « vous ne déroberez point ». Vous n'userez ni des mensonges, ni des tromperies les uns envers les autres. La loyauté. Vous savez, Dieu est loyal. Hein? Il a créé le paradis et il a créé l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, mais il a créé l'enfer pour les diables. Si des gens y vont en enfer, c'est parce qu'ils l'ont voulu. Il agit avec loyauté et il nous le dit, ce qu'il faut faire pour aller au paradis. Il faut avoir une vie sainte. Si tu n'as rien à faire de la vie sainte, si tu n'as rien à faire de Dieu, tu iras en enfer. Mais ce n'est pas Dieu qui va t'envoyer en enfer, c'est toi-même. Il faut agir avec loyauté envers ses semblables. Même si nos affaires ou notre vie, il doit en subir. Parce qu'il faut être véridique. Le Seigneur il nous a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Même si on doit en subir. Parce que des fois, ça arrive, hein. Dieu nous dit de dire la vérité, même si cette vérité, il doit nous accabler. Mais nous devons être dans le vrai. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une vie sainte. Hein? Et pas seulement avoir une apparence, mais il faut l'être. Il faut l'être. Verset 12. « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. N'aie pas juré. » Et combien de fois nous le faisons, hein? Combien de fois nous le faisons, hein? Pourquoi? Il ne faut pas déshonorer le nom de Dieu. Je te jure sur la Bible que je t'ai dit la vérité. On a un Dieu qui est juste envers nous, qui est saint, et nous devons l'être, assumer tout ce que nous devons assumer et pas nous cacher. Jurer. Pourquoi jurer? Notre oui doit être oui. J'ai fait quelque chose, je dis oui, oui, je l'ai fait, et pas me cacher. Parce que le Seigneur, il nous le dit, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Car tout ce que tu rajoutes, il vient du diable. Est-ce que toi, tu as fait cette chose? Oui, je l'ai fait, mais tu sais, tu l'as fait, tu dis oui. Ne cherche pas d'excuses. Car lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas agréées à Dieu, que Dieu n'accepte pas, il n'y a pas d'excuse. Lorsqu'on se présentera devant lui, Dieu il nous dira, qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? Oui, mais tu sais, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné, hein, j'ai aidé à droite à gauche. Je ne te demande pas ce que tu as fait, je te demande, qu'est-ce que tu as fait de Jésus-Christ? C'est ça, les choses importantes, c'est ça. Et jurer, ça veut dire admettre d'autres choses qui ne peuvent pas. Ne jurez pas, car chaque fois que nous le faisons, nous déshonorons le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des menteurs. Parce que nous sommes des menteurs. Et celui qui désire être saint, il faut laisser de côté les mensonges. Au verset 13 aussi, il nous le dit quelque chose. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu n'opprimeras point ton prochain. Faire du mal aux autres. Pourquoi Jésus il est venu ici bas sur son monde? Pour faire du mal? Non, pour faire du bien. Et nous devons faire pareil. Encore une fois, même si nous devons en subir des conséquences. Car Dieu nous fait du bien. Vous savez, si vous êtes là, c'est la grâce de Dieu. Ah, j'ai passé par hasard là. Il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes là, c'est que Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi on doit constamment se mettre sous cette direction-là. Et faire ce que Dieu il a fait envers nous. Il nous a aimés. Il dit, j'ai tant aimé le monde. Il nous le dit, aimer Dieu avec son cœur et ton prochain. Automatiquement, nous ne devons rien faire contre notre prochain. Qui c'est mon prochain? Voilà. Ça, c'est encore... C'est la première question que Caïn il avait posée. Hein. Mais qui est mon prochain? Voilà. Mon prochain, c'est tous ceux qui nous entourent. Et nous devons faire du bien comme Dieu, il nous fait du bien. Et au verset 14, il continue, il dit, « Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. » Encore une fois, là, il nous dit, envers notre prochain, nous devons rien faire. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Si nous faisons quelque chose contre notre prochain ou contre notre frère ou notre sœur, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et c'est la chose qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Je ne parle pas d'ici, hein? Je dis dans nos églises. Les gens, ils n'ont plus la crainte de Dieu. On va aux églises, on va au culte avec les péchés dans notre cœur. Vous vous souvenez ce qui est arrivé à Ananias? Tout de suite, Dieu, il est intervenu. Mais ça, c'est parce que c'est le commencement de l'église et il fallait que les gens ils comprennent que c'est Dieu qui était souverain, qu'il fallait se comporter comme Dieu il désire. Imaginez-vous si aujourd'hui Dieu, il intervient de la même façon qu'à la première église. Combien on resterait? Mais Dieu est patient, Dieu fait grâce. Voilà pourquoi il nous dit d'agir avec la crainte de Dieu. Et c'est en menant une vie sainte que nous pouvons vivre cette grâce de Dieu. Que nous pouvons être saints. Hein? Il y a aussi, il nous dit aussi d'être impartial. Impartial. Jacques nous le dit, hein, le chapitre 5, chapitre 2. Si quelqu'un y rentre dans votre assemblée bien habillé, avec de l'or et tout ça, et Jacques nous dit, ben, viens, assieds-toi au premier rang là. Si quelqu'un y vient avec des habits un peu déchirés. Toi, reste là-bas, hein, parce qu'il ne faut pas choquer. Là. Il faut être impartial envers tous nos frères et sœurs avec notre prochain. Il ne faut pas regarder s'il est noir, s'il est jaune, s'il est blanc, s'il est riche, s'il est pauvre. Il faut être impartial. Comme Dieu, il est impartial avec chacun de nous. Heureusement que Dieu, il est impartial. Il n'a la considération de personne. Parce que Dieu le regarde tous avec la même bonté. Si Dieu ne répond pas à cette bonté, c'est parce que nous l'empêchons. Mais les souhaits de Dieu, c'est cela. Verset 16, regardez ce qu'il dit encore. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple. On en a un peu parlé ce matin de ce petit instrument qu'on a dans la bouche, la langue. Tu ne répandras pas de calomnie. Hein? Des calomnies, si quelqu'un il entend des calomnies, des murmures ou des jugements, qu'il les garde pour lui. Qui le garde pour lui et pas le répandre. C'est un peu comme ce qu'il a dit le frère, le maître qui sème de la bonne semence et au moment de la récolte, il voit qu'il y a des livrées aussi. Chaque fois que nous répandons des calomnies, il y a un résultat. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous dit, ne fais pas toutes ces choses-là. Hein? Pourquoi il nous dit ça? Il sait que notre langue, c'est un feu. C'est un feu. Et il nous est déjà qu'il nous dit qu'il peut bénir, mais il peut maudire. Il peut bénir il peut aussi ne pas les faire. Cet petit instrument, il nous a dit, personne n'est arrivé à dompter. Personne. Voilà pourquoi il nous a dit de ne pas se comporter comme ça. Il va s'aimer un feu. Vous jetez une petite allumette dans une forêt, ça prend. Hein. Et ainsi, c'est la langue. Dans une assemblée, dans une église, vous répandez un bruit à partout. Vous l'avez dit à l'oreille, mais c'est répandu partout. Au verset 17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Hein? Ici, il nous est dit, on peut redresser les adversaires, mais avec douceur. Avec douceur. Parce que Dieu, il nous a redressés avec douceur, avec amour même. Qui c'est qui nous a amenés au Seigneur? Qui c'est qui nous a amenés au pied de cette croix? C'est l'amour de Dieu. Et pour que nous puissions avoir une vie sainte, nous devons pratiquer cet amour tout autour de nous. L'amour, quelle belle chose. Hein? Il y a de la place dans notre cœur pour la haine et pour l'amour. La haine, il y est déjà. Mais pour l'amour, c'est Dieu. Il nous a dit, mais Dieu a répandu dans vos cœurs son amour. C'est pour ça que nous pouvons manifestement manifester cet amour autour de nous. Parce que nous avons l'amour de Dieu. Et c'est cela que le Seigneur il nous dit. Hein? Il peut arriver de parler durement. Mais qui c'est qui ne l'a pas fait? Hein? On a vu ce matin de la colère. Ça peut nous arriver, mais la Bible nous dit aussi, ne t'endors pas avec ta colère. Il faut, lorsqu'on s'en aperçoit, il faut remédier tout de suite, demander pardon et se remettre en règle avec Dieu. C'est ça la vie sainte. Verset 18, il continue, tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Il ne dit pas contre les gens en dehors, hein, mais il dit contre les enfants de ton peuple, c'est-à-dire dans l'Église. Hein. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune. La rancune. Il y en a beaucoup de rancunes dans les Églises. Parce qu'on a gardé cet esprit charnel. Un peu comme ils font le monde. Hein. Des fois, on entend des gens qui disent « Ah, ça fait des années que je ne parle plus à mes parents ou à mon frère, à ma sœur. Je la vois, mais je ne la vois pas. Parce qu'il m'a fait ça et ça et ça. » Et pourtant, il dit « Tu ne garderas point de rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais aujourd'hui, on est tellement... Hein, on s'aime bien. Les hédonistes appellent ça. Voilà. Ceux qui se regardent et se disent, ah, t'es beau. T'es bien, continue comme ça. Et il y a aussi au verset 19, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, mais on serait là encore demain. Vous observerez mes lois. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Et ça, c'est il parle des bestiaux. Mais aujourd'hui, dans cette société, voilà, on met ça sur les humains. Hein. Homme avec homme, femme avec femme. Voilà. On se marie entre hommes, on se marie entre femmes. Toutes ces choses-là, Dieu, vis-à-vis de Dieu, il faut une vie sainte. Voilà pourquoi c'est très important. Il met une distinction entre les choses. Ça c'est depuis les commencements. Hein. Il y a toujours eu une distinction. Soir et matin, jour et nuit, sauvé et pas sauvé, croyant et non-croyant, israélite ou païen. Aujourd'hui, il y a l'Église et il y a les païens. Si nous mettons en pratique toutes ces choses-là, c'est ça mener une vie sainte. Et au verset 31, il y a quelque chose qui lui dit, il dit, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins. Ne le recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel. » C'est des ordres qu'il nous donne. De ne pas utiliser les méthodes du monde. Pourquoi ne devons pas utiliser les méthodes du monde? Parce que nous ne sommes pas du monde. Dieu nous a choisis. Il nous a mis en dehors. Nous sommes dans le monde parce que nous vivons. Mais nous ne devons pas vivre comme le monde. Celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Voilà. On ne peut pas aimer deux choses, ou le Seigneur ou Bélial. C'est ça que le Seigneur nous dit. Hein? Il réprouve les méthodes du monde, tout ce que le monde il approuve. Nous devons les rejeter pour avoir une vie sainte vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu il nous les a commandés. Et chaque fois, il nous dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, et je te demande ces choses-là. » C'est quelqu'un qui est souverain, c'est lui qui dicte comment se comporter. C'est lui qui établit les saluts. C'est lui qui a préparé les saluts, il nous a dit comment rentrer dans ce salut, et ce n'est pas au salut que les hommes ils ont préparé. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ, se repentir de ses péchés, les confesser, se reposer dans le sang précieux de Jésus-Christ et l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. C'est le seul moyen. Voilà ce que le Seigneur il nous dit. Hein? Mais c'est ce qui doit nous motiver, c'est le verset 1. Soyez saints, car je suis saint. Hein? Pour faire quoi ? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Et nous devons plaire au Seigneur, pas au monde. Et c'est seulement en menant cette vie sainte que nous pouvons plaire au Seigneur. Pareillement dans nos familles, comment est-ce qu'on va plaire à papa et maman? Ben, en faisant ce qu'ils demandent, n'est-ce pas? Et ainsi, c'est Dieu. C'est exactement la même chose. On peut dire, Dieu il nous dit, Paul, vous en souvenez, Paul, qu'il était, il avait cette maladie-là. Hein? Alors il a demandé d'être guéri. Et Dieu, il ne l'a pas dit, je t'ai guéri. Il a dit seulement, ma grâce te suffit. Tu demandes tant de choses, mais tu as déjà ma grâce. C'est avec ça qu'il faut que tu vis. Voilà pourquoi nous devons être les imitateurs de Dieu, imitateurs de Jésus-Christ. Car c'est lui l'exemple qui nous a fait, qui nous a donné. Et Jésus, il leur a dit, moi à eux et eux à moi. Donc, si nous avons Jésus dans notre cœur, automatiquement, nous aurons cette vie sainte. Mais si nous n'écoutons pas ce que Jésus nous dit dans sa parole, cette vie sainte, elle va s'éloigner de nous. Mais encore une fois, chaque fois, Dieu il nous dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Et il faut faire ce que Dieu il nous dit de faire. Pour connaître toutes ces choses-là, il faut lire la Bible, il faut l'étudier. Il faut lire, l'étudier, la méditer, car c'est seulement comme ça que nous pouvons comprendre la pensée de Dieu et surtout la mettre en pratique. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. C'est le commandement de Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Et il nous a donné comment être saints. Il ne nous a pas laissés dans l'oubli. Il nous a, je veux que tu sois saint, voilà comment tu dois te comporter. Que le Seigneur aide chacun de nous, afin que nous puissions agréer à ce grand Dieu qui nous a tant fait du bien.